Au chat. Article 14. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous parler de l'article 14 et particulièrement les femmes rurales et le changement climatique. Seulement 20% des résidents vivent dans les zones rurales, d'après les études. Une étude de 2017 sur les femmes rurales, à laquelle vous faites référence dans le rapport, identifie des perceptions dominantes concernant les femmes agricultrices, les obstacles qu'elles rencontrent et formule des propositions pour accroître la participation des femmes dans l'économie rurale. En 2016, les femmes représentaient 34% des exploitantes agricoles, donc une augmentation légère. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce chiffre? Et y a-t-il des programmes de prêts, des projets en cours pour venir en aide aux femmes afin d'acquérir des biens et du bétail? La Grèce est confrontée aux pires pertes économiques liées au changement climatique pour l'Union européenne, par 3 fois supérieure à la moyenne européenne. Je reconnais l'application de votre loi de 2022 sur l'adaptation au changement climatique et l'inclusion d'une dimension genre dans vos politiques concernant le changement climatique. Merci pour votre intervention à ce sujet ce matin, particulièrement à cause de l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et les filles. Cependant, nous avons aussi entendu des critiques concernant l'approche du gouvernement par rapport à l'adaptation au changement climatique. Les autorités locales se sont vues qualifiées de non formées, sous-financées et en manque d'effectifs dans ce domaine. Pourriez-vous nous dire quels sont les programmes et projets en place pour les femmes et les filles qui ont été confrontées aux conséquences du changement climatique, notamment les effets économiques et des catastrophes météorologiques et leurs conséquences? Madame la secrétaire générale, les femmes rurales sont confrontées à des discriminations et l'exclusion. Les collègues en ont déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a donc des préoccupations concernant les écarts en matière d'éducation et d'emploi à cause des mariages précoces. Je sais qu'il y a des incohérences dans les chiffres exacts de femmes rurales en Grèce. Pourriez-vous nous donner des précisions sur ces chiffres? Nos collègues ont posé des questions précédemment sur les groupes. La façon dont les groupes sont comptés en fonction de religion, non pas d'origine ethnique, mais pourriez-vous élargir les procédures de recensement et les questions pour identifier les minorités religieuses, linguistiques et ethniques afin que l'État puisse identifier justement les femmes qui appartiennent à plusieurs de ces minorités? À présent, j'aborde l'une des préoccupations principales de notre dialogue, c'est-à-dire le refoulement allégué des demandeurs d'asile et des migrants et réfugiés et le traitement des femmes et filles en détention. On estime qu'il y a environ 180 000 personnes apatrides ou déplacées en Grèce environ, et cela représente un problème de taille pour votre pays qui vous met sous pression par rapport aux migrations régulières, mais d'après ce qui a été dit par votre commission des droits de l'homme, on a assisté à une certaine amélioration ces 7-8 dernières années, mais le réseau de surveillance des violences aux frontières a indiqué cependant que les procédures de refoulement deviennent systématiques et deviennent une méthode de traitement inhumain. Quelles sont les mesures prises par l'État afin de garantir que les femmes et les filles soient protégées contre ces violences dans cet environnement précis? Et quels sont les mécanismes en place pour assurer un suivi et faire en sorte que les autorités aient à rendre des comptes si elles s'adonnent à ces abus de pouvoir? Parmi les exactions, on enregistre passage à tabac, déni d'alimentation et d'eau et violences sexuelles. 69 cas ont récemment été enregistrés parmi les réfugiés et ces cas démontrent aussi font également état de détention au secret et à l'isolement. Ces pratiques de détention, qu'avez-vous à dire au sujet de ces pratiques de détention alléguées? Vous avez parlé de centres contrôlés, me semble-t-il, précédemment. Vous pouvez peut-être le préciser. Combien de ces femmes et filles ont accès sans condition à leur juriste, à leur famille, à un conseil indépendant? Et comment faire en sorte qu'elles ont connaissance de leurs droits en tant que demandeuses d'asile et qu'elles ont aussi accès à des mécanismes de recours pour obtenir justice en cas d'incidents de violence et d'abus?